Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Et bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Galère. La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, reprend du service après la longue pause de l'été. Il y a aussi eu de nombreux événements qui ont réuni des militants cet été. Alors on peut citer du 3 au 6 août, sur le plateau du Larzac, les résistantes. Le chiffre était initialement limité à 5000 inscriptions, mais ce sont finalement 7500 personnes qui sont venues à ce rendez-vous donné par Terre de Lutte. C'était en co-organisation avec la Confédération Paysanne et les Faucheurs Volontaires d'OGM. Et ça s'est apparemment fort bien passé, même avec un petit surplus de personnes. Il y avait aussi le convoi de l'eau, un convoi parti le 18 août de Sainte-Soline pour rejoindre Orléans d'abord, et plus particulièrement l'agence de l'eau Loire-Bretagne, puis Paris le 26 août pour une manifestation contre les méga-bassines. Alors, dans cette émission, pour en parler, nous avons interviewé Didier, membre d'Attaque dans le Gard, et cycliste invétéré qui a participé d'un bout à l'autre à ce convoi. Vous l'entendrez tout à l'heure. Et puis, bien sûr, cet été, il y a eu l'Université européenne des mouvements sociaux et des solidarités. Il y avait 1800 inscrits et ce sont plus de 2000 personnes qui y ont passé de 1 à 5 jours pour participer aux très nombreux ateliers, modules, plénières et activités qui s'y déroulaient. Pour vous donner une idée, durant la journée, on avait le choix entre une vingtaine d'activités au moins. Et tous les soirs, il y avait 3 plénières en même temps. Il y en avait pour tous les goûts. Alors, comme j'y suis allée, cette fois, c'est moi qui vous raconterai mon université d'été des mouvements sociaux et des solidarités. Et puis, nous terminerons cette émission par les batailles à venir pour Attaque et l'agenda d'Attaque Marseille, en lien aussi avec les mobilisations au niveau national.
Physical attraction, girl, you know to feel the spark. Come on, a few words, now go tell you no sweetheart. Now go lava, 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 not chat beer fun. I'll get straight to the point, like a aura, aura.
Donc, pourquoi je me suis retrouvé à Sainte-Soline? Parce qu'il y a 12 ans, lors d'un premier voyage à vélo dans la région, à Parthenay, j'étais accueilli par un couple de cyclistes qui étaient déjà impliqués dans les luttes contre les méga-bassines. C'est vrai qu'il y a 2 ans, je n'étais pas vraiment au courant. Et donc, ils m'ont expliqué un peu ce que c'était et pourquoi ils se battaient contre ça. Enfin, grâce à eux, je suivais les événements. Donc, ils m'avaient invité au mois de mars contre les méga-bassines de Sainte-Soline. Je lui ai dit, Niort, ça fait un petit peu loin depuis le Gard, donc je délègue pour toi. Donc, j'ai vu ce qui s'était passé. Du coup, après, on a entendu parler de la décision de Darmanin de dissoudre le soulèvement de la Terre. Et du coup, je me suis inscrit à cette liste de diffusion. Et tout de suite, j'ai reçu des messages concernant la création de ce convoi tracto-vélo entre Sainte-Soline et Paris, Orléans, pour déposer un moratoire contre les méga-bassines. Et moi, l'idée de faire un voyage à vélo avec, au départ, c'était 600 cyclistes entre Sainte-Soline et Paris, je trouvais ça absolument une idée géniale. Donc, je me suis tout de suite inscrit.
Peut-être d'abord, il faudrait que tu nous rappelles pourquoi il faut s'opposer à ces méga-bassines. Qu'est-ce que c'est?
Alors, les méga-bassines, c'est un projet du gouvernement et de la FNSEA pour construire des réservoirs d'eau en extérieur pour aider les agriculteurs à irriguer leurs champs. Alors, le problème de ces méga-bassines, c'est que d'abord, c'est une hérésie complète d'extraire de l'eau des nappes phréatiques qui ont mis parfois des milliers d'années à arriver dans des endroits pour les mettre au soleil, donc dehors, donc ce qui va provoquer une évaporation complètement incroyable. Et en plus, si tu veux, pourquoi le projet paraît absolument aberrant, c'est que cette eau, ces mégabassines, elles ne servent pas à une agriculture générale, mais elles servent à des agriculteurs, enfin, des agriculteurs,
Les
comment ça
entrepreneurs
s'appelle ceux qui font
agricoles.
oui, enfin, ceux qui font surtout de la céréale, hein, pour faire pousser du maïs. Mais ce maïs n'est pas du tout un maïs qui est prévu pour la consommation animale ni humaine, mais c'est un maïs qui est prévu pour la méthanisation. C'est-à-dire que tu vas au départ, un État français qui a déjà versé presque 500, un demi-milliard d'euros pour construire des mégabassines, je crois qu'il y a un projet en tout de 200 mégabassines dans la région de Sèvres, Indre-et-Loire, qui sert à des agriculteurs. Enfin, un petit nombre d'agriculteurs, des gros agriculteurs, parce que ce sont des céréaliers, voilà, j'ai trouvé le nom des céréaliers, qui sont en train de s'accaparer des terres agricoles jusqu'à 2000 hectares pour faire du maïs qui n'est pas du tout prévu pour la consommation, mais pour une industrie de méthanisation. Donc c'est ça qui, si tu veux,
Voilà.
qui commence
Donc,
à
en
me faire
fait,
un peu.
l'idée de faire des retenues d'eau de temps en temps, c'est pas forcément mauvais, mais là, c'est d'immenses retenues d'eau. Elles ne sont pas alimentées par l'eau de pluie ou par un fleuve, elles sont alimentées par les nappes phréatiques, ce qui est débile. Et ça s'évapore encore plus, hein, évidemment, comme tu disais. Et donc, en plus, c'est pour des intérêts privés. Et au départ, ces mégabassines, elles devaient être financées par des consortiums d'agriculteurs. C'était le cas au début. Et ils avaient dit
Tout à
pas
fait.
de subvention publique. Et alors,
Voilà.
finalement, on en est à un demi-milliard maintenant.
Ouais, un demi-milliard de l'État. Donc, nos impôts, hein, qui servent à construire des bassines pour quelques-uns. Alors, j'ai un petit message parce que il y avait un atelier méga bassine aux résistantes au Larzac et j'ai un petit message d'une amie qui a assisté à cet atelier. C'est celle. Déjà, une méga bassine des Deux-Sèvres. 2 mois et demi de pompage sans interruption pour une bassine de 50 hectares et 16 km de canalisation pour arroser les champs, enfin les céréales concernées. Donc tu vois, 2 mois et demi de pompage permanent du sous-sol pour faire une méga bassine de 50 hectares. Je sais pas si tu vois, 50 hectares,
Oui, je vois.
c'est
C'est
hallucinant, quoi.
immense.
Voilà.
Et
Donc, voilà.
donc, dans les opposants, on trouve en particulier un syndicat agricole, hein, la Confédération paysanne, qui depuis le début se bat contre ça, plus des comités locaux qui se sont
Alors,
levés, parce que, bien sûr, les autres paysans, à taille plus humaine, et qui ne font pas du maïs intensif, mais des cultures adaptées.
paysanne, ouais.
Paysannes sont privées d'eau, par contre, quoi, ou
Voilà, c'est
privées
ça.
d'eau, ou risquent de l'être, ainsi que la nature, parce que ces mégabassines aussi, enfin, elles se font, je sais pas moi, quand tu prends par exemple le Rhône, bon, les centrales électriques, tout ça, tout se discute entre les utilisateurs de l'eau, il doit y avoir un peu pour les poissons, un peu pour les pêcheurs, un peu pour l'agriculture, un peu pour l'électricité, ça, et c'est débattu, discuté, et réfléchi. Là, non, là, c'est pour quelques gros agriculteurs, et puis on pompe. Et il y a aucune tractation sur l'usage de l'eau, alors que, je sais pas, moi, souvent même, il y a des syndicats enfin, ceux qui construisent des canaux, par exemple, pour irriguer, on ferme ou on ouvre les canaux pour telle ou telle parcelle et c'est discuté, quoi. Tu vois? Ben là, rien. Là, ils décident.
Là, c'est pas discuté. C'est pas
Non.
discuté du tout. Pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est que c'est vraiment un accaparement de l'eau, qui, comme tu sais, est un bien commun pour quelques-uns. Et c'est pour ça qu'il y a des comités qui s'appellent BNM, Bassines Non Merci, qui se sont créés dans le 79, dans les Deux-Sèvres, dans le 86, dans la Vienne et tout autour pour dire non. Donc c'est pour ça qu'il y a cette lutte. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre aussi? Oui, à tel point que par exemple des pêcheurs locaux qui s'aperçoivent que les rivières s'assèchent commencent à adhérer aux luttes de Bassines Non Merci parce que Ils disent, mais alors, pourtant les pêcheurs, on ne peut pas dire que ce sont plutôt des anarchistes d'ultra-gauche, plutôt des gens traditionnels, assez sages, mais là, ils se rendent compte vraiment que leur passion, même leur métier, puisque après, je te dirais par rapport au parcours, les pêcheurs professionnels de la Loire qui disent, mais ça ne va plus, quoi, il n'y a plus d'eau. Non seulement, il y a d'un côté les centrales nucléaires, comme tu disais, qui pompent de l'eau dans les fleuves, hein, comme la Loire, et qui rejettent de l'eau trop chaude, avec dérogation bien sûr du gouvernement pour laisser l'eau trop chaude, mais quand même déversée dans les rivières, enfin ce qui tue la biodiversité, ce qui provoque des proliférations d'algues et tout, enfin toi c'est un problème. Donc voilà, donc ce convoi de l'eau était au départ et toujours dans le but de déposer un moratoire à l'agence de l'eau d'Orléans, qui est en fait là où se décide toute la distribution de l'eau dans la Loire. Et Loire et Centre, hein, donc ce convoi était destiné à aller là. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les personnes qui s'occupent de cette agence de l'eau sont très conscientes du problème. Mais la préfète de la région, elle, aux ordres, on s'en doute, du gouvernement, elle continue à appuyer la création des bassines. Donc le convoi se dirige vers Orléans pendant une semaine pour déposer ce moratoire au niveau de l'agence de l'eau.
Alors, dans
Alors,
ce convoi, il y a des vélos et il y a des tracteurs aussi, c'est ça?
il y a des tracteurs, il y a une vingtaine de tracteurs qui tirent des remorques avec des symboles comme une loutre. Par exemple, moi j'étais à Parthenay, ils ont construit une extraordinaire loutre en bambou de 2,50 m de haut qui symbolise l'animal qui vit dans les rivières. Il y avait des oiseaux, il y avait des poissons, enfin tu vois, des tracteurs, et qui servaient aussi à tirer l'intendance, si tu veux, parce que nourrir 700, enfin jusqu'à 1000 personnes par jour, ça demande une intendance assez importante. Donc, et puis un ravitaillement permanent, parce que il a fait très 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 chaud pendant le voyage, et ces tracteurs qui roulent à peu près à la même vitesse que les vélos, hein, entre 5 et 10 km heure, tirent des sortes de cantines roulantes qui donnent des fruits, qui donnent de l'eau, qui donnent aux cyclistes qui viennent à côté des trucs. Il y a même aussi en même temps qui servent de sono, parce qu'il y avait des sonos incroyables qui nous suivaient ou qui nous précédaient.
Admiration est allée, mais from the start with some physical attraction, girl, you know to feel the spark. Come on, a few words, now go tell you no sweetheart. Now go lava, 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 chat, beer, fun. I'll get straight to the point, like a horror, horror.
Donc, on se retrouve à Lezay, qui est pas loin de Sainte-Soline, le premier jour. Déjà à peu près 560 cyclistes qui sont là dans un grand champ, avec des prises de parole de tout le monde, de la conf, du soulèvement de la terre pour démarrer. Premier arrêt à Lezay. Construction d'une sorte d'immense cairn en pierre censé représenter les blessés de Sainte-Soline. Ça a pris quand même quelques heures pour fabriquer ce beau monument en pierre bien, bien fait, en pierre sèche. Puis après, on part pour la première étape, donc petite étape, 25-30 km la première journée, mais on est parti assez tard, donc on n'avait pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, tous les soirs, un paysan nous accueille, ou une ville nous accueille, soit un paysan résistant. Soit une ville qui se bat contre tous les projets absolument débiles du gouvernement, que ce soit les bassines, le nucléaire ou les méga structures de centres d'approvisionnement, hein. Et à chaque fois, on est reçu extraordinairement par des gens, des bénévoles qui font à manger, qui proposent des conférences, de la musique, des concerts. Mais quand même, l'idée de faire voyager 700 cyclistes ensemble, dans la campagne, c'était incroyable, quoi. C'était vraiment génial, une ambiance,
Donc
une ambiance.
vous avez été vu par beaucoup de gens quand même.
Oui, on a été vu par beaucoup de gens, sauf par les médias dominants qui ont presque rien fait. Il y avait surtout des réseaux sociaux qui parlaient beaucoup de nous, mais franchement, la presse nationale n'a pas été très. Elle a que journalistes qui sont venus nous voir. Et puis surtout à Orléans, avec ce qui s'est passé à Orléans, le fait que la veille de notre arrivée à Orléans, Fabien Leguet, tu sais, le responsable de Bassines Non Merci, apprend que le jour prévu de la réunion, l'agence de l'eau sera fermée, qu'on ne pourra pas accéder et qu'il n'y aura personne. Donc ça met tout le monde un peu en colère. Donc du coup, c'est pour ça que la veille, au lieu d'aller au point de rendez-vous normal, dans Orléans, on a bifurqué tout d'un coup, à la grande surprise, à la grande stupéfaction des flics qui nous attendaient plus loin, pour aller à l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, là, elle était ouverte puisque c'était la veille. Il y avait quand même quelques flics dedans pour protéger, mais ils étaient genre 5 dedans, grilles fermées. Mais on a fait le siège de l'agence jusqu'à temps que la délégation du convoi soit reçue par le directeur de l'agence. Mais le lendemain, donc tout le monde couche, tout le monde dort, campe sur un boulevard de périphérique devant l'agence, alors que ce n'est pas prévu, donc c'est un petit peu le bazar. Et puis le lendemain matin, le lendemain, la délégation du convoi est reçue par la préfète et tout. Et en même temps, on apprend qu'une nouvelle bassine se crée dans les Deux-Sèvres. Alors là, ça a été le claquage de porte, tout le monde est parti, et c'est là que tout le monde a dit, tout le monde à Paris pour manifester à Paris.
Vous êtes parti le 18 août,
Le 18, ouais.
mais ce convoi de l'eau, il avait été décidé, comme tu nous l'as dit, bien avant. Et en fait, le 11 août, on apprend que la dissolution, du soulèvement de la Terre a été suspendue par le Conseil d'État.
C'est ça, exactement. Bonne nouvelle, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cris de joie, extraordinaire. Bon, enfin, en même temps, c'est juste la forme, quoi, qui est suspendue, mais pas le fond. Il y a un autre jugement qui est prévu en octobre pour juger sur le fond. En plus, la dissolution de quoi? D'un mouvement.
Voilà.
Il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'association, il n'y a rien. Ce sont des gens qui se
Très
réunissent et qui,
disparate, en fait.
dans une idée générale. Donc, c'est absolument impossible à dissoudre une idée. Tu ne peux pas empêcher, surtout que suite à l'annonce de Darmanin de dissoudre, il y a 150 000 personnes qui ont signé un document comme quoi ils adhéraient à cette idée. Donc, c'est extraordinaire, quoi. C'est plus qu'un parti politique, hein. Donc,
Oui.
c'est intéressant.
Mais ce convoi de l'eau aussi, c'était quand même une belle réponse et vous avez été très nombreux à faire ça, même si, comme tu dis, la presse n'a pas beaucoup parlé de vous. Et c'était important de ne pas lâcher, de ne pas se laisser intimider.
Alors, c'était aussi une manifestation qui s'est voulue absolument pacifiste, tranquille, avec des cyclistes, des enfants, de tous les âges, voilà, c'est surtout, voilà, montrer que le soulèvement de la terre, c'est pas du tout des gens violents, c'est des gens qui se battent contre les inégalités, contre l'accaparement de l'eau, et puis surtout comme tu dis, l'agro business, quoi. C'est pas du tout de l'agriculture, c'est du business uniquement, comme je t'ai dit, hein. Tu vois la séquence entre les bassines, le maïs, la méthanisation, tu te dis, mais c'est quoi ça, quoi? Et si tu passes, si tu es au courant ou tu as entendu parler, mais il paraît que cet été, à la Chambre des députés, il y a une loi qui a été votée à une voix près. Donc, visiblement, LFI, NUP, écologistes n'étaient pas là, qui dirait que la terre agricole, c'est de la merde, ça vaut rien. Mais si on transforme la terre agricole en photovoltaïsme ou en méthanisation, là, ça devient de la bonne terre, quoi, parce que moi, ça sert à quelque chose d'intéressant, de commercial. Voilà. Je crois même que, par exemple, le maïs, il faudrait exactement se renseigner exactement, le maïs qui sert à l'alimentation animale, il est payé 5-10 € la tonne, on va dire, mais le maïs qui est vendu à la méthanisation, on paye 30 € la tonne. C'est-à-dire que le paysan qui décide, moi, je vais faire du maïs, je vais arrêter l'élevage, je vais faire du maïs pour la méthanisation, il va gagner de l'argent. Et c'est pour ça que dans cette région, l'élevage disparaît. On a discuté avec des paysans, ils disaient, mais je suis arrêté dans le Limousin, par exemple, ils disaient, mais il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de brebis, il y a très peu de vaches. C'est des grandes industries céréalières qui descendent petit à petit de la Beauce et qui envahissent les terres plus au sud, comme les Deux-Sèvres, l'Indre, la Vienne, parce que c'est des super terres agricoles, quoi. Donc
Et
l'accaparement de l'eau et de la terre agricole par des gens qui font du business avec l'agriculture, subventionnée par la PAC, bien sûr, en plus. Et donc tout ça donne le vertige, quoi, parce que c'est où est-ce qu'on va avec cette agriculture. Voilà. Alors
OK.
on a fait plusieurs étapes extraordinaires, comme à Tours, où on a été cueillis par le maire et un député qui sont venus chercher à vélo. Et ça a donné
Ah ouais.
un spectacle extraordinaire de 150 personnes dans la fontaine de la ville, en maillot de bain devant la mairie. On a été accueillis à Tours, à Poitiers, par Léonore Mauconduit, je crois. S'appelant Léonore, tout le monde l'appelle Aliénor d'Aquitaine. Forcément, c'est normal, c'est la résidence d'Aliénor d'Aquitaine. Pareil, écolo, élevée de 30 ans, mais qui travaille de 2 ans qu'elle est élue, mais elle fait un boulot extraordinaire pour bien sûr contre les bassines, contre tout ça, pour rendre sa ville beaucoup plus piétonne et pour le vélo, bah, c'est génial. On a été aussi accueillis, où est-ce qu'on est, dans une autre ville, où à mes tours c'était vraiment bien. Mais par contre, dès qu'on est arrivé dans les zones des Fennessoa, de Loiret, là, on était vraiment en terre hostile. Hein, le pauvre paysan qui nous a reçus, qui essaye de faire de la bio au milieu des autres, se sent vraiment. D'ailleurs, il nous l'a dit. Attention, là maintenant, nous sommes en terre hostile. Hein. Tout ce qui est autour de nous, c'est des gens qui sont contre vos projets. Mais c'est
Mais
vrai, plus.
vous n'avez rencontré aucun barrage
Non, non,
FNSE.
non, 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 pas du tout, pas du tout. Donc, tout le parcours était le matin fourni à la gendarmerie qui nous escortait, qui ouvrait la route très, très bien. À la fin, discuter avec eux, et même par exemple quand ils avaient besoin de remonter le convoi, on sentait que les motards étaient, soit pas de sirène, rien du tout, ils attendaient d'avoir de la place, pas très respectueux, même si il y a des gens qui ont vraiment une grosse haine contre les flics et qui disaient non, on les aide pas, hein, on les aide pas. Mais bon, c'était, il y a eu aucun heurt, aucun problème. Si, à part voilà, à part le golf, extraordinaire. Trois cyclistes, quelqu'un qui avec un râteau dessine le logo du soulèvement de la terre sur un green. Alors là, ça a été les gardes mobiles armés, casqués pour nous empêcher de rouler. Mais tu vois, tu vois la alors bien sûr, là, tout le monde, toute la presse en a parlé, à tous les journaux à qui ont reporté textuellement le message de la préfecture, dégradation d'un golf par des militants et tout, alors que il y a eu deux choses un peu bizarres. Il faisait tellement chaud, tellement chaud, tellement chaud. Et aussi, un phénomène, on était à côté d'un lac, interdit de se baigner, pollution. Pollution
Ouais.
due au la, donc, tu as 500 personnes qui ont chaud. Et il y avait une sorte de van, une petite cabane à côté du golf avec une vanne d'eau. Ils ont voulu ouvrir pour arroser tout le monde et malheureusement la vanne a été cassée. Donc ça aussi, ça a été un scandale, destruction de vannes et tout. Que des épiphénomènes qui ont intéressé la presse nationale, alors que le reste, ça a été
Et à Paris, vous avez été bien reçu aussi ou pas?
Alors, Paris, moi j'ai voulu aller jusqu'à Paris, parce que le combat s'est arrêté à Orléans. Voilà. La fin, c'était Orléans. Après, le convoi ne proposait pas la suite jusqu'à Paris, parce que c'était loin encore, ça faisait quand même encore 150 km. Le rendez-vous, c'était samedi. Très compliqué d'emmener 700 personnes, des tracteurs, t'imagines, arriver dans la banlieue parisienne,
Oui.
donc c'est complètement. Mais pendant le trajet, moi, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'à Paris. Et avec quelques cyclistes, on a commencé à en parler, à discuter entre nous, à dire oui, ça serait bien, on va organiser quelque chose. Puis ça a marché. En fait, on a été 70 à aller jusqu'à Paris. Alors, pour ne pas se faire repérer et pour ne pas créer d'embouteillage ou de soucis, on s'est séparés par des groupes de 10, 12. Tu vois, donc on est discret, même si 12 cyclistes sur la route, ça se voit. Hein, surtout que ce n'est pas des cyclistes professionnels ni des gens qui font du vélo de course, parce que des bagages et tout. Mais ça s'est super bien passé. On a été magnifiquement accueillis par un paysan. Si vous voulez, on a fait une recherche sur Internet un petit peu par rapport à la conf. Et au milieu du parcours, on a un paysan qui nous a dit: ouais, mais je vous accueille, pas de problème. Vous pourrez planter votre tente, on vous fera à manger, il y aura tout ce qu'il faut. Et on a été accueillis extraordinaire par un agriculteur AMAP du côté des Temples. C'était génial, avec un concert, avec à manger et tout, c'était génial. Et puis du coup, on est arrivé le samedi midi à. Là, en plus, si tu veux, là, il fallait rouler. C'était des cyclistes, hein, qui étaient prêts à faire du 15-20 km heure pour faire des 160 km en 2 jours. Et puis à Paris, on est arrivé à midi à peu près au Champ de Mars. Bon, il n'y avait pas grand monde. Il y avait, je sais pas, il y avait peut-être entre 1000 et 2000 personnes. Donc, après, il y a eu une sorte de marche un peu bordélique exprès avec des fanfares à Paris qui a vraiment un peu bloqué Paris. Mais tous les ponts étaient bloqués par les CRS. Quelques soucis avec. Mais ça s'est bien passé globalement. Mais ce qui est vraiment super sympa, c'est qu'avec 100 cyclistes, tu bloques Paris. Hein. Tu mets 100 cyclistes à un carrefour, genre carrefour de l'Odéon, il n'y a plus personne qui passe. Hein. Et on n'est pas beaucoup, on n'est que 100. Hein. Mais voilà. Donc après, ils ont été jusqu'à Montreuil, il y avait une soirée, et puis là, j'étais quand même un peu fatigué, et j'ai quitté cette manifestation dans l'après-midi pour aller me reposer, parce que j'étais un peu un peu naze, à vrai dire.
Ouais,
Enfin,
on peut
j'étais content de me
comprendre.
reposer. J'étais content d'arriver chez un ami, avoir un lit
Surtout
pour
que toi,
m'allonger.
tu avais fait avant
Ah oui, j'avais fait un gros voyage avant pour arriver. C'est-à-dire, j'avais
des
décidé de.
résistantes de
Voilà.
Lanzac jusqu'à.
C'est ça. Comme j'avais eu envie d'aller à deux festivals avant Sainte-Soline sur le Larzac. Un premier festival fin juin, juillet qui s'appelle l'Éloge des voyages lents, où ça parle de gens qui voyagent à vélo, en roulotte, à pied. Et le semaine d'après, il y avait les résistantes au Larzac. Donc, j'étais au Larzac. J'avais
C'était
déjà fait
bien,
une
les
partie.
résistantes?
Bah écoute, c'était assez étonnant parce qu'on a quand même pris du 8 degrés la nuit en plein mois d'août, de la pluie, de la boue, du vent monstrueux, mais tout le monde était encapuchonné avec des polaires et tout au plein mois d'août sur le Larzac. Donc
D'accord.
c'était assez étonnant, mais des super des conférences, du théâtre, des conférences gesticulées, des concerts, enfin plein de choses. Je crois qu'il y avait 120 ateliers. Sur les 3 jours, soit 7 500 personnes qui sont venues quand même. Donc c'était vraiment super aussi. Vraiment. Moi j'ai fait un peu de bénévolat aussi, mais c'était. Donc du coup, je me suis dit, puisque je suis déjà au Larzac, je vais continuer. J'ai traversé la France à vélo, Larzac, donc Aveyron, Lot, Cantal, Creuse, Corrèze, que des départements absolument un peu oubliés, parce que c'est. Ça pouvait ressembler à une des du vide, tellement il n'y avait personne, mais c'était magnifique. Et je suis arrivé donc à Parthenay pour la veille, l'avant-veille de Sainte-Soline, chez mes amis cyclistes qui m'avaient accueilli.
Bon,
Voilà.
eh ben, merci
Génial,
d'avoir
génial,
pu
génial,
partager
super
ton
expérience.
enthousiasme.
Oui, mais franchement, s'il y a un convoi de l'eau tous les ans, je m'inscris. Hein.
Je
Et si on est
comprends.
10 000, alors, le problème, c'est que.
À refaire.
À refaire, mais on voyage avec 800 cyclistes sur une route. C'est-à-dire qu'il n'y a que des vélos qui parlent, qui pédalent, et tout le monde est là, tout le monde discute. Tous les sortes de vélos, hein, il y avait des gens, on voyait bien que des vélos venaient de sortir de la cave. Ils n'étaient pas du tout. Non, il y avait un atelier vélo itinérant qui a travaillé comme des dingues tous les soirs pour réparer les dérailleurs, les machins, les ceci qui déconnaient. Et il y a que des gens incroyablement motivés, bénévoles. Et puis si jamais tu tombais en panne pendant le trajet, il y avait un camion balai. Qui t'emmenait, qui emmenait le vélo à l'étape, et là il était réparé et tu pouvais continuer ton voyage. Super organisation, des gens
Super.
extra partout. Voilà. Un
Ben,
super moment, un super
super.
moment de militantisme et de vélo et de voyage extraordinaire. Voilà. C'était super.
Eh ben, merci beaucoup, Didier.
Y a pas de quoi.
À
À très bientôt
bientôt.
et puis à la prochaine. Salut!
Ciao.
Berlin, à Devine, les monarques et leurs figurines, juste une paire de demi-dieux, livrés à eux, ils font des filles, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi des scélérats, à qui sourit la vie. Marchez sur l'eau, évitez les péages, jamais souffrir, j'y fais venir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez vos souliers, usez les curieux. Soyez ma mère. donné, dire qu'elle il m'a rendu, dire qu'elle il m'a rendu. Hey, que me doux. Osez, Joséphine. Osez, Joséphine. Et rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie.
Alors, mon université d'été de Bobigny du 23 au 27 août, j'ai assisté à la plénière d'ouverture dans un amphi donc extrêmement chaud. Beaucoup de personnes transformaient le programme en éventail. Cela dit, donc une plénière plutôt réussie, à la fois locale, puisque donnant la parole à des collectifs et des luttes de la Seine-Saint-Denis, et internationale, bien au-delà de l'Europe, hein, puisque s'y sont exprimées des personnes venues de loin, par exemple des peuples autochtones du Canada, d'Amérique latine. Alors le même soir, j'ai voulu assister à la soirée attaque, qui avait lieu à l'éphémère, mais à peine arrivée, ma fatigue, je m'étais levée très tôt pour prendre le train et la perspective du long trajet en métro parisien pour le retour vers mon lieu d'hébergement ont eu raison de cette volonté et je suis repartie. Bon, pour autant, il y avait déjà du monde, des belles files d'attente pour boire un verre ou pour manger, des retrouvailles et des discussions sympas à cette soirée dans tous les coins. Jeudi, fraîche et dispose, je me suis concocté une journée énergie. Je suis allée au passionnant module de Sud Énergie, d'Attaque France et de la Fondation Rosa Luxembourg sur quel service public de l'électricité et comment sortir de la crise. Ça a été une matinée très pédagogique. On comprend très bien la volatilité des coûts de l'électricité depuis la mise en place du marché, avec plusieurs prix selon que l'on achète pour dans du long terme ou pour une consommation immédiate. Donc des prix qui n'ont absolument rien à voir avec les coûts. Bref, la folie de ce marché pour un produit qui est vraiment au contraire fait pour une gestion à l'échelle d'un État avec des prix appuyés sur les coûts de production et non pas sur la loi du marché. Le retour à l'État permet aussi de faire des choix stratégiques, bon, nucléaire, pas nucléaire, quel renouvelable, des retenues hydrauliques comme stockage d'électricité, enfin je sais pas moi, plein de décisions à prendre et d'investissements à faire dans une logique de service public et pas dans une logique de rentabilisation le plus souvent à court terme en plus. Alors la revendication d'un grand service public, c'est aussi la disparition de ce qu'on appelle les fournisseurs d'électricité, en fait des sociétés privées qui ne produisent pas d'électricité mais qui achètent sur le marché de gros, donc au prix volatile, et qui vendent aux consommateurs. Mais ils n'acheminent pas non plus l'électricité, hein. Leur métier, c'est en fait un métier parasite d'intermédiaire qui profite de la volatilité et qui fait de la spéculation sur un produit qui en plus ne se stocke pas. Donc ils font de la spéculation à partir des prix immédiats et des prix sur le long terme, uniquement sur l'idée qu'on se fait de quel sera le prix de l'électricité à 2 ou 3 ans. Et tout ça pour se faire de l'argent. Ce métier de fournisseur a été créé de toutes pièces. Pour ce faire, on a mis en place, par exemple, l'AREN, ce dispositif qui oblige EDF à vendre son électricité nucléaire avec un prix fixe un peu trop bas et qui ne prend pas en compte tous les coûts du nucléaire. Alors parmi ces fournisseurs, il y en a certains qui partaient d'une idée sympa, par exemple Enercoop, un modèle qui se voulait exemplaire, promettant d'injecter dans le réseau autant d'énergie renouvelable que ce qu'il vend d'énergie à ses clients, même si on ne peut pas savoir quels sont les kilowattheures fabriqués par un système solaire ou par autre chose. Mais cette année, Enercoop a eu aussi recours à l'AREN. Force est de constater que pour la cohérence de l'ensemble, une multitude de petits acteurs qui ont chacun leur propre intérêt à défendre, voire leur survie à défendre, hein, ça n'a pas de sens. Alors, on peut envisager que l'État fasse construire, sous forme de marché public, par exemple, les infrastructures dont il a besoin et qu'il a du mal à financer, barrages, centrales, éoliennes, panneaux solaires. Mais il doit en rester propriétaire. Et une fois que ces infrastructures physiques seraient construites et payées à celui qui les a construites, c'est fini. Elles ne doivent plus être une rente pour les constructeurs et l'État garde la main sur ces moyens essentiels à la définition du service public. Il existe un plan alternatif à ce plan Hercule et au système actuel. Vous le trouverez sans peine sur le site de Sud Énergie. Je vous invite à le lire par petits morceaux, en résumé, dans le détail, comme vous voulez. Mais à tous les niveaux de lecture, ce plan apparaît très convaincant. L'électricité ne se prête pas du tout à la privatisation, à la concurrence. Elle doit être produite et distribuée dans un système public intégrant toutes les circonstances. Les choix stratégiques doivent se faire au niveau de l'État. Bon, alors évidemment, selon qui dirige l'État, ils peuvent nous plaire ou ne pas nous plaire. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut combattre, voire imposer un contrôle citoyen sur la prise des décisions politiques. Une multitude d'acteurs privés, ça complique tout et ça rend l'électricité plus chère, alors que le système précédent, mis en place après la guerre, fonctionnait fort bien. Voilà pour cette matinée. Et l'après-midi, j'étais attirée par un atelier qui s'intitulait « Théâtre Forum, comment répondre à son cousin Jean Covicist », organisé par le réseau Sortir du Nucléaire. Alors en fait, il n'y a pas eu de théâtre forum, mais c'était bien intéressant quand même. Nous avons travaillé d'abord ensemble pour sortir des arguments antinucléaires, puis en petits groupes sur chacun de ces arguments pour les étayer à partir de documents qui nous étaient fournis. Puis ensuite un retour ensemble pour écouter le résultat de chaque atelier, si possible sous forme un peu théâtrale. On a appris aussi à cette occasion qu'un corrigé de la BD de Jean Covici a été écrit. Il ne peut pas être publié, notamment parce qu'il reprend des passages de la BD, mais il est intéressant quand même et on peut quand même y avoir accès sur Internet. La BD aussi, et la BD de Jean Covici était intéressante d'ailleurs, elle permettait malgré tout de bien comprendre le pourquoi du comment. Et puis le vendredi, je me suis consacrée au cœur de cible d'attaque en suivant donc le module qui était concocté principalement par le CADTM et ATTAC, reconstruire un système financé mondial au service de l'humain et de la planète.
10, 9, 8, 7, 6, 5. Savoir maintenant, tout le monde sait ce que personne veut voir maintenant.
Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde sait, mais personne veut le voir pour l'instant.
Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde sait ce qu'il nous faudrait faire maintenant.
Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde sait ce qu'il nous faudrait faire, mais pour l'instant.
On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence.
Tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde sait qu'ils font pas leur devoir maintenant.
Je veux rien devoir, tu veux rien devoir maintenant.
te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudra se lever maintenant.
Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudra se lever, mais pour l'instant, on danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Mais pense quand tu danses à l'énergie que tu dépenses. Pense au temps que tu prends pendant que les aiguilles avancent.
Première partie sur le système financier actuel. On se rend compte que malgré les notes prises, la compréhension pourtant hein, lors de l'exposé hein, de tout ce qui s'est dit, eh ben c'est pas facile de restituer quand on n'est pas économiste ni d'ailleurs pédagogue. On nous a expliqué les banques centrales par rapport aux banques ordinaires. Dans chaque pays et chaque entité utilisant la même monnaie, il y a une banque centrale, publique en général, qui chapeaute les banques ordinaires et puis qui anime en son sein une chambre de compensation qui notamment gère les réserves des banques ordinaires qui sont déposées dans la banque centrale. La compensation se fait en monnaie de la banque centrale, donc sous l'autorité étatique ou multi-étatique, et selon le taux de change sur le marché des capitaux internationaux. Même si on dit que les banques produisent aujourd'hui de la monnaie de banque ordinaire, c'est toujours la banque centrale qui garde la main sur les réserves des banques en monnaie émise par la banque centrale et qui refinance les banques dans la monnaie étatique. Donc le principal outil de régulation des banques centrales actuellement, c'est le taux d'intérêt. Alors il y a trois taux, on parle le plus souvent du taux de refinancement des banques, c'est le taux directeur. Et il y a deux autres taux de ce qu'on appelle le corridor, donc le taux plancher et le taux plafond, qui s'appelle aussi le taux marginal. Et ces taux directeurs influencent les taux de prêt. Alors, en gros, hein, à partir de 2007, les banques centrales ont diminué leur taux d'intérêt régulièrement jusqu'à presque zéro et elles ont racheté les dettes publiques et privées pour faciliter le déficit des États auprès de leurs banques ordinaires. Et puis, courant 22, c'est le rehaussement rapide des taux d'intérêt et avec ses conséquences. Alors, on nous a aussi parlé de qui sont les créanciers dans le monde, les publics, les privés, fonds d'investissement, vautours, qui sont les débiteurs et la composition des dettes. On nous a évoqué également les différences entre FMI et Banque mondiale, hein, deux agences des Nations unies. Mais le FMI est financé par les États qui le composent, 190 membres, et la Banque mondiale, 189 membres, se finance, elle, sur les marchés. Leur rôle diffère un peu aussi. Le FMI accorde des crédits d'urgence, hein, la Banque mondiale à plus longue échéance. Et de plus, c'est la Banque mondiale qui gère les conditions pour l'accès aux fonds du FMI. Il y avait également une partie sur l'analyse de la nouvelle crise de la dette. Avec les quatre chocs externes qui ont été très lourds pour les pays du Sud, la pandémie avec la nécessité de financement de la santé, la chute des recettes d'exportation, moins d'importation, le tarissement des ressources du tourisme aussi. Deuxième chose, donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec des spéculations avant même l'impact réel sur les céréales. Et par exemple, des pays comme l'Égypte, le Sénégal, d'autres qui ont abandonné leur production céréalière sur pression du FMI pour des cultures d'exportation comme café, cacao, coton, banane, eh bien, voient une hausse drastique de leurs factures d'importation. Et puis, la hausse des engrais chimiques qui sont des dérivés du pétrole utilisé dans l'agriculture hein, et des combustibles. Et enfin, la décision d'abord de la Réserve fédérale des États-Unis d'augmenter son taux d'intérêt directeur de 0,25% à 5,25%, suivi de celle de la BCE de faire passer son taux d'intérêt directeur de 0 à 4%, tout ça courant 2022. Hein. Ces hausses aboutissent à une hausse des intérêts de 9 à 15% hein, sur d'anciens prêts privés des pays du Sud. 50% de la dette des pays du Sud est aux mains de créanciers privés et donc certains pays comme le Ghana, considérés comme modèles avant, ben, se retrouvent en défaut de paiement en 2022. À noter que dans cette crise, personne ne prétend sérieusement que l'inflation serait due à des hausses de salaire, comme on l'a souvent entendu par le passé. Et là, c'est bien le profit qui est à l'origine de l'inflation. À l'heure actuelle, en plus, la hausse des taux d'intérêt n'a eu aucun effet sur cette inflation. Bon, j'arrête là pour ce module. On nous a aussi présenté l'exemple du Sri Lanka avec le soulèvement populaire du printemps-été 2022 qui avait provoqué la chute et l'exil du président en titre. Tout était passionnant. Et puis pour la fin d'après-midi, j'avais choisi la plénière « Nos résistances nous impliquent tous et toutes entières, l'intime et le sensible, comme puissance de nos luttes et de nos révoltes internationalistes ». Le descriptif qui était fait dans le programme correspond parfaitement à ce qu'on y a entendu. Il y a quand même eu assez peu d'interactions avec le public et puis la salle était très pleine, il faisait très chaud, tout le monde n'était pas assis, mais c'était quand même bien sympa et émouvant. Le samedi, se tenait notre module matin et après-midi, donc féministe pour la justice climatique, économique et sociale, penser et agir féministe. C'était préparé avec la commission Genre d'Attaque France, Adéquation, Action Aide, Solidaire, la Marche Mondiale des Femmes, la Fondation Copernic et le CADTM. Eh ben, on a eu du succès, jusqu'à 60 personnes en même temps, plus de monde le matin que l'après-midi, pas forcément les mêmes. Des interventions passionnantes avec des témoignages internationaux sur des pratiques écoféministes en Afrique notamment, la surexploitation des femmes souvent issues de l'immigration dans les boulots du soin à domicile et du ramassage des fruits rouges en Espagne et l'imbrication des difficultés liées au titre de séjour avec celles liées à l'exploitation par l'employeur. Et puis un remue-ménage sur le care, le soin, et son extension du familial vers le collectif et du soin aux humains vers le soin à tout notre environnement et à la planète. Des expériences racontées aussi, des expériences sur la durée, comme les journées intersyndicales femmes qui sont organisées depuis 1997 en commun par des femmes de la CGT, de Solidaire et de la FSU, ou des expériences récentes, particulières, comme l'organisation d'une formation syndicale sur le consentement à la FSU de Bordeaux. Enfin, la parole à des femmes iraniennes en exil sur la révolution en Iran. Le dimanche matin, j'ai plutôt fureté sur les stands, discuté avec les uns et les autres, avant d'assister quand même à la plénière de clôture. Voilà, c'était mon université.
Change la cadence pour se rendre à l'évidence. Quand on t'en sent la danse de dernière chance. Change la cadence, le deuxième de l'évidence. Le temps t'en sent. la cadence, faut se rendre à l'évidence.
Alors, l'agenda d'Attaque Marseille pour les semaines et les jours qui viennent. Eh ben, dès le 16 septembre, vous pourrez vous rendre sur le Vieux-Port de midi à 13h. Là, c'est pas Attaque Marseille qui organise, hein, c'est surtout Femmes Solidaires, je crois. Déroulera un hommage à Mahsa Amini, cette jeune kurde iranienne assassinée par la milice des mœurs en Iran il y a tout juste un an. Ben, Attaque Marseille fait partie de ceux qui appellent à la manifestation du 23 septembre contre le racisme, y compris le racisme systémique, notamment dans la police et les violences policières, plus généralement pour la défense des libertés publiques. Le rendez-vous donc est à 14h à la Porte d'Aix. Dans les initiatives auxquelles Attaque participe, il y a la journée mondiale pour le droit à l'avortement. C'est le 28 septembre. Nous serons présents donc au rassemblement du 28 septembre à 18h30 sur le Vieux-Port, sous l'Ombrière. Mais ce sur quoi nous concentrons nos forces actuellement, c'est la préparation d'une fête, hein, d'une rencontre régionale avec une fête, la fête des 25 ans d'Attaque. Bah oui, 25 bougies, ça se fête encore. Donc ça se passera au le Pré des Évadés, au chemin de Morgiou, hein, juste après le dernier parking. Le matin sera plus studieux avec une rencontre régionale, donc des comités de PACA et du Gard. Et l'après-midi, des stands, une exposition, des jeux en tout genre pour les ménages et puis des jeux d'adresse. Également, il y a 14h, un petit atelier avec les Rosies, avec une petite réflexion sur la place de la danse, du chant, de la culture dans le militantisme, et puis une application concrète, hein, quand même. Voilà, donc tout ça c'est le 1er octobre, alors réservez votre dimanche 1er octobre le matin pour discuter et cogiter avec nous dans une plénière et trois ateliers. Le midi, pour un pique-nique partagé tiré du sac. Et l'après-midi, pour participer à nos jeux intelligents. Voilà.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.